Chapitre 26. Rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des vents, plus haute que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. C'est cette chanson qui est la plus entendue pendant les enterrements, à l'église et au cimetière. En 20 ans, j'ai tout entendu, de l'Ave Maria à l'envie d'avoir envie de Johnny Hallyday. Pour une inhumation, une famille a demandé la chanson de Pierre Perret, le Zizi, parce que c'était la préférée du défunt. Pierre Luccini et notre ancien curé ont refusé. Pierre a expliqué qu'on ne pouvait pas réaliser toutes les dernières volontés, ni dans la maison de Dieu, ni dans le jardin des âmes. C'est ainsi qu'il nomme mon cimetière. La famille n'a pas compris le manque d'humour du protocole funéraire. Il arrive régulièrement qu'un visiteur pose un lecteur de musique sur une tombe. Il ne met jamais le son bien haut, comme pour ne pas déranger les voisins. J'ai vu aussi une dame poser sa petite radio sur la tombe de son mari pour qu'il entende les infos. Une très jeune fille mettre des écouteurs de chaque côté de la croix sur la tombe d'un lycéen pour lui faire écouter le dernier album de Coldplay. Il y a aussi les anniversaires qu'on vient fêter en déposant des fleurs sur la tombe ou en passant de la musique d'un téléphone portable. Chaque 25 juin, une femme prénommée Olivia vient chanter pour un défunt dont les cendres ont été dispersées dans le jardin des souvenirs. Elle arrive à l'ouverture des grilles. Elle boit un thé sans sucre et sans dire un mot dans ma cuisine, à part peut-être une remarque sur le temps qu'il fait. Vers 9h10, elle se dirige vers le jardin des souvenirs. Je ne l'accompagne jamais, elle connaît parfaitement le chemin. S'il fait beau et que mes fenêtres sont ouvertes, j'entends sa voix jusque chez moi. Elle chante toujours la même chanson, Blue Room, de Chet Baker. We'll have a blue room, a new room for two rooms, where every day's a holiday, because you're married to me. Elle prend son temps pour la chanter. Elle la chante fort, mais lentement, pour faire durer. Il y a de grands silences entre chaque couplet, comme si quelqu'un lui répondait, lui faisait écho. Ensuite, elle s'assied quelques instants à même le sol. En juin dernier, j'ai dû lui prêter un parapluie parce qu'il tombait des cordes. Quand elle est repassée par la maison pour me le rendre, je lui ai demandé si elle était chanteuse à cause de sa voix si belle. Elle a ôté son manteau, puis elle s'est assise près de moi. Elle a commencé à me parler comme si je lui avais posé un tas de questions, alors qu'en 20 ans, je ne lui en avais posé qu'une seule. Elle m'a parlé de l'homme, François, pour qui elle venait chanter chaque année. Elle était lycéenne à Mâcon quand elle l'avait rencontré. C'était son professeur de français. Elle en était tombée amoureuse, tout de suite, au premier cours. Elle en avait perdu l'appétit. Elle ne vivait plus que pour le retrouver. Les vacances scolaires étaient des puits sans fond. Bien sûr, elle s'arrangeait toujours pour être devant au premier rang. Elle ne travaillait plus que le français où elle excellait. Elle redécouvrait sa langue maternelle. En cours d'année, elle avait obtenu un 19 sur 20 à une écriture d'invention. Elle avait choisi comme sujet « L'amour est-il un leurre ?» Elle avait brillamment écrit 10 pages autour de l'amour qu'un homme, professeur de son état, ressentait pour une de ses élèves. Amour qu'il rejetait en bloc. Olivia avait construit sa dissertation comme un roman policier dont la coupable n'était autre qu'elle. Elle avait changé le prénom de tous ses personnages, les élèves de sa classe, et le lieu où se déroulait l'intrigue. Elle avait transposé dans un collège anglais. Elle avait effrontément demandé à François « Monsieur, pourquoi 19? Pourquoi pas 20 ?» Il lui avait répondu « Parce que la perfection n'existe pas, mademoiselle. » Mais alors, avait-elle insisté, pourquoi le 20 a-t-il été inventé si la perfection n'existe pas? Pour les mathématiques, pour la résolution des problèmes. En français, il y a très peu de solutions infaillibles. Comme annotation à côté du 19 sur 20, il avait gribouillé au stylo rouge « Style direct parfait. Vous avez su mettre votre prodigieuse imagination au service d'une construction littéraire implacable. Le sujet est passionnant et traité avec brio, légèreté, humour et gravité. Bravo, vous faites preuve d'une grande maturité d'écriture. » Elle avait mille fois surpris son regard posé sur elle quand elle avait le nez dans ses cahiers. Elle avait rongé beaucoup de capuchons de stylo cette année-là, à le regarder donner des explications sur les sentiments d'Emma Bovary. Elle était sûre que cet amour était réciproque. Et, fait étrange, ils portaient tous deux le même nom de famille. Cela l'avait troublée, bien que leur nom, le roi, soit commun. Quelques jours avant de passer le bac de français, Olivia, parmi un noyau d'élèves qui révisait avec François, avait osé lui dire « Monsieur Leroy, si on se mariait tous les deux, rien ne changerait. Nous n'aurions aucune démarche administrative à faire, ni pour nos papiers d'identité, ni pour les factures. » Tout le groupe avait ri aux éclats et François rougit. Olivia avait passé son bac de français et obtenu les notes de 19 à l'oral et 19 à l'écrit. Elle avait envoyé un mot à François. « Monsieur, je n'ai pas eu 20 parce que vous n'avez pas encore trouvé de solution à notre problème. » Il avait attendu qu'elle passe le bac avant de demander à la voir pour un entretien seul à seul. Après un long silence qu'elle avait pris pour un trouble amoureux, il lui avait dit « Olivia, un frère et une sœur ne se marient pas ensemble. » Sur le coup, elle avait ri. Elle avait ri parce qu'il avait prononcé son prénom alors qu'il l'avait toujours appelée « Mademoiselle ». Puis elle avait cessé de rire, tandis qu'il la fixait intensément. Elle était restée sans voix quand François lui avait appris qu'ils avaient tous les deux le même père. François était né d'une union précédente, 20 ans avant Olivia, près de Nice. Leur père et la mère de François avaient vécu ensemble 2 années, puis ils s'étaient séparés douloureusement. Les années avaient passé. François avait fait des recherches beaucoup plus tard et découvert que son père s'était remarié et était père d'une petite Olivia. Le père avait caché l'existence de François à sa seconde famille. Ils s'étaient revus. François s'était fait muter à Mâcon pour se rapprocher de lui. Il avait été bouleversé de découvrir que sa sœur prenait des cours dans sa classe. À l'appel de son nom le jour de la rentrée, il avait cru à une méchante coïncidence quand elle avait décollé sa bouche de l'oreille de sa voisine pour lever le doigt à l'annonce de son nom et souffler « Présente !» en le fixant droit dans les yeux. Il l'avait reconnu parce qu'il se ressemblait. Lui l'avait remarqué parce qu'il savait, elle non, parce qu'elle ignorait tout. Au début, Olivia n'avait pas voulu le croire. Croire que son père avait pu cacher l'existence de François. Elle avait pensé qu'il inventait cette histoire pour mettre fin à ses agissements aguicheurs d'enfant capricieuse. Et puis, quand elle avait compris que cette histoire était réelle, elle avait lancé à François, faussement légère, « Nous ne venons pas du même ventre, ça ne compte pas ?» Je vous aime d'amour. » Il lui avait répondu dans une colère froide, « Non, oubliez. Oublie ça tout de suite. » Il y avait eu l'année de terminale. Ils se croisaient dans les couloirs du lycée. À chaque fois qu'elle l'apercevait, elle avait envie de se jeter dans ses bras, mais pas comme une sœur dans les bras de son frère. Lui l'évitait, baissait la tête. Agacée, elle faisait un détour pour l'affronter et lui criait presque « Bonjour, monsieur le roi !» Et lui répondait timidement « Bonjour, mademoiselle Leroy. » Elle n'avait rien osé demander à son père. Elle n'en avait pas eu besoin. Elle avait vu comment il avait observé François le jour de la remise des diplômes de fin d'année. Olivia avait surpris un sourire entre François et leur père. Elle avait eu envie d'en prendre un pour tuer l'autre. Ses larmes et sa rage étaient montées. Elle ne voyait pas d'issue, sinon oubliée. Après la remise des diplômes, il y avait une fête. Les élèves et les professeurs s'étaient successivement produits sur scène. Après avoir entendu des reprises des groupes Trust et Téléphone, François avait chanté « Blue Room » a cappella, avec la même intensité que Chet Baker. « We'll have a blue room, a new room for two room, where every day's a holiday, because you're married to me. » Il l'avait chanté pour elle, les yeux dans les yeux. Elle avait compris que jamais elle n'aimerait un autre homme que lui, et que cet amour impossible était réciproque. Alors elle était partie. Avait fait des tours du monde et passé des diplômes pour devenir professeur de littérature à son tour. Elle s'était mariée ailleurs, à quelqu'un d'autre. Elle avait changé de nom. 7 ans après, à l'âge de 25 ans, elle était retournée vivre auprès de François. Elle avait frappé à sa porte un matin et lui avait dit « Maintenant, nous pouvons vivre ensemble, je ne porte plus le même nom que vous. Nous ne nous marierons pas, nous n'aurons pas d'enfants, mais au moins, nous vivrons ensemble. » François avait répondu « D'accord. » Ils avaient continué à se vouvoyer, toujours, comme pour se garder à distance l'un de l'autre, pour rester dans un début, un premier rendez-vous. La vie leur avait donné 20 ans de vie commune, le même nombre d'années qui les séparaient. En buvant une gorgée de Porto, Olivia m'a dit « Notre famille nous a rejetés, mais nous n'en avons pas trop souffert. Notre famille, c'était nous. » À la mort de François, comme pour nous punir, sa mère l'a fait incinérer ici, à Brancieux-en-Chalon, sa ville natale, à elle. Pour faire complètement disparaître son fils, elle a fait jeter ses cendres dans le jardin des souvenirs. Mais jamais il ne disparaîtra. Je le porterai toujours en moi. Il a été mon âme, frère.